17h à Washington, 21h à Monrovia et 22h à Niamey. Bienvenue dans Sahel Plus, présenté par Claire Morin-Gibourg. Bonsoir à tous. Aujourd'hui au sommaire de Sahel Plus. En Libye, le Parlement libyen est en faveur d'une intervention étrangère. Interview du président du Niger, Mahamadou Issoufou, autour des menaces terroristes dans le Sahel.
Sachez que le Niger, qui est entouré par des pays qui sont exposés à ces menaces-là, est un pays qui est en paix et en sécurité. Nous avons su garder nos frontières et créer les conditions de la sécurité des personnes et des biens à l'intérieur de notre territoire.
Épidémie du virus Ebola, feu vert de l'OMS pour l'utilisation de traitements non homologués. Enfin, opération rapatriement de Centrafrique, 300 Maliens ont pu regagner leur pays. Mais auparavant, voici le bulletin d'information.
Bonsoir à tous, à ce micro, Lola Akomachri. Épidémie d'Ebola, le décompte macabre continue sur le continent selon un dernier bilan de l'Organisation mondiale de la santé. Pour les dernières 48 heures, 56 décès et 128 nouveaux cas ont été enregistrés en Afrique de l'Ouest. L'armée ougandaise annonce avoir libéré 45 femmes et enfants qui étaient détenus par la LRA, l'armée de résistance du Seigneur. Toujours selon les militaires ougandais, ces otages étaient libérés lors de deux opérations début août à Digba, dans le nord de la République du Congo. En Libye, le Parlement s'est prononcé en faveur d'une intervention étrangère pour protéger les civils. Félicie Passy, Zembro.
D'après l'AFP, le Parlement réuni à Tobrouk, dans l'est du pays, a adopté par 111 voix sur 124 députés une résolution appelant la communauté internationale à intervenir rapidement pour protéger les civils en Libye, notamment à Tripoli et à Benghazi. La résolution ne donne pas de détails sur cette intervention demandée par le Parlement issue des élections du 25 juin et qui s'est installée début août à Tobrouk, loin de la capitale en proie aux violences. Le pays est le théâtre depuis la mi-juillet d'affrontements meurtriers entre diverses milices à Tripoli et à Benghazi. Signe de l'anarchie qui règne dans le pays, le chef de la police de Tripoli, le colonel Mohamed Al-Souissi, a été assassiné mardi par des hommes armés et non identifiés qui ont enlevé ses deux gardes du corps. Des dizaines de milices formées d'ex-insurgés sèment la terreur dans le pays depuis la chute de Muammar Kadhafi en 2011.
Inondations au Soudan, les pluies torrentielles qui touchent le pays depuis le mois dernier ont fait 77 morts et 227 blessés. Tel est le bilan donné par le ministère de la Santé. D'après les autorités, les intempéries affectent 36 000 familles dans 15 provinces du pays, surtout celles de Khartoum, de Kassala, du Darfour Nord et du Nil Blanc.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu est en colère contre le Conseil des droits de l'homme de l'ONU après l'annonce de la création d'une commission d'enquête sur Gaza. Monsieur Netanyahu estime que l'ONU donne une légitimation aux organisations terroristes meurtrières contre le Hamas. Cette commission doit enquêter sur toutes les violations des lois humanitaires internationales et des droits de l'homme dans la bande de Gaza en proie depuis plus d'un mois à une guerre entre Israël et le Hamas. Un conflit qui a fait plus de 2000 morts côté palestinien et 67 côté israélien. Irak, la Maison-Blanche appelle le premier ministre sortant irakien Nouri al-Maliki à respecter le processus démocratique et à céder la place pour permettre à son successeur de rassembler le pays. Pendant ce temps, sur le terrain, Washington réfléchit à amplifier ses efforts humanitaires. Une réunion d'urgence des ministres européens des affaires étrangères est convoquée ce vendredi à Bruxelles. En Syrie, les djihadistes de l'État islamique ont pris le contrôle ce mercredi de plusieurs villages dans la province d'Alep à l'issue de combats qui ont fait près de 40 morts selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Et puis Ukraine, Kiev se dit prêt à accepter le convoi humanitaire russe à destination de Loukhansk sous certaines conditions, notamment que l'aide humanitaire soit distribuée par la Croix-Rouge. Vous écoutez La Voix de l'Amérique, la suite de Sahel Plus avec Claire Morin-Gibourg.
Au Retour à la partie magazine de Sahel Plus sur la Voix de l'Amérique. Nous ouvrons par la Libye et le Parlement s'est prononcé ce mercredi à majorité des voix en faveur d'une intervention étrangère pour protéger les civils. Des combats meurtriers entre des milices rivales ont accentué ces dernières semaines le chaos. Félix Yepassis Zambrou.
D'après l'AFP, le Parlement réuni à Tobrouk, dans l'est du pays, a adopté par 111 voix sur 124 députés une résolution appelant la communauté internationale à intervenir rapidement pour protéger les civils en Libye, notamment à Tripoli et à Benghazi. La résolution ne donne pas de détails sur cette intervention demandée par le Parlement issue des élections du 25 juin et qui s'est installée début août à Tobrouk, loin de la capitale en proie aux violences. Le pays est le théâtre depuis la mi-juillet d'affrontements meurtriers entre diverses milices à Tripoli et à Benghazi. Signe de l'anarchie qui règne dans le pays, le chef de la police de Tripoli, le colonel Mohamed Al-Souissi, a été assassiné mardi par des hommes armés et non identifiés qui ont enlevé ses deux gardes du corps. Des dizaines de milices formées d'ex-insurgés sèment la terreur dans le pays depuis la chute de Muammar Kadhafi en 2011.
Vous êtes bien à l'écoute de Sahel Plus sur la Voix de l'Amérique, 93.1 FM, notre fréquence à N'Djamena. Lors du sommet États-Unis-Afrique, Mahamadou Issoufou, le président du Niger, a également accepté de répondre aux questions de la Voix de l'Amérique. Il est notamment revenu sur les menaces terroristes qui pèsent dans la région sahélienne, et notamment ACMI et Boko Haram. Le président du Niger, Mahamadou Issoufou.
Par rapport à toutes ces menaces jusqu'ici avec les États-Unis, on a eu à coopérer sur le plan sécuritaire. Les États-Unis ont soutenu notre pays sur le plan des renseignements. J'ai coutume de dire, sans les renseignements qui nous sont donnés par nos amis américains et français, nous sommes aveugles. Les États-Unis nous soutiennent également dans la formation. Vous savez, récemment, il y a eu l'opération Flintlock qui s'est déroulée au Niger et qui a apporté une contribution extrêmement importante dans la formation de nos forces armées. Il n'y a pas que nos forces armées, il y a également d'autres pays qui ont été invités à participer à cette opération. Nos officiers sont formés également ici aux États-Unis. Donc, côté formation, les États-Unis contribuent beaucoup. Et côté équipement également de nos forces de défense et de sécurité. Alors, cette coopération est très positive et très appréciée par les Nigériens. Et je suis heureux que le Niger ait été retenu parmi les 6 pays qui vont bénéficier dans un premier temps de la nouvelle initiative du président Obama sur la gouvernance sécuritaire en Afrique. Bien sûr, cette initiative s'étendra progressivement aux autres pays. Pour l'instant, c'est 6 pays qui sont concernés. Le Niger, vous l'avez dit, le Nigeria, le Ghana, le Mali, ça c'est en Afrique de l'Ouest, au Maghreb et à la Tunisie, et en Afrique de l'Est, il y a le Kenya. Je pense que c'est une initiative qui permet d'établir des relations stratégiques au plan de la sécurité, des relations globales, des relations stratégiques sur le long terme, et ces relations vont porter sur les aspects que je viens d'évoquer, sur le renseignement, sur la formation, sur les équipements, y compris les équipements en matière d'infrastructures militaires à mettre en place. Parce qu'aujourd'hui, il est admis qu'investir dans la sécurité, ce n'est pas un gâchis. Aujourd'hui, on sait qu'il y a une liaison étroite entre sécurité et développement. Et investir dans la sécurité, c'est investir dans le développement.
On a beaucoup parlé de la menace ACMI au Sahel, notamment au Niger. Qu'en est-il de la menace Boko Haram, puisque vous partagez une frontière commune avec le Nigeria?
C'est vrai, dans la mesure où ACMI est présente à la frontière algéro-malienne, cela constitue une menace pour le Niger. Mais sachez que le Niger, qui est entouré par des pays qui sont exposés à ces menaces-là, est un pays qui est en paix et en sécurité. Nous avons su, depuis 3 ans et demi que nous sommes en place, garder nos frontières et créer les conditions de la sécurité des personnes et des biens à l'intérieur de notre territoire. Maintenant, vous me parlez de Boko Haram. Je disais que le Niger est dans un triangle dont un des sommets est la Libye, le deuxième sommet le Mali et le troisième sommet le Nigeria avec Boko Haram. Pour Boko Haram, nous sommes concertés au niveau des pays du bassin du lac Tchad depuis 2012 déjà. Et nous avons décidé de mettre en place une force multinationale avec la contribution de l'ensemble des pays du bassin du lac Tchad, le Niger, le Nigeria, le Cameroun. Chacun s'est engagé à donner un bataillon pour pouvoir mettre en place une force multinationale afin de faire face à la menace de Boko Haram. Et il y a eu un sommet
à Paris,
le sommet de Paris. Il y a eu des réunions à Londres pour que ces concertations aboutissent à la mise en place d'une mutualisation des capacités de renseignement et des capacités opérationnelles de différents pays. C'est ce qui est en cours actuellement.
Mais est-ce que, par exemple, êtes-vous au courant, y a-t-il des membres nigériens de Boko Haram ?
Je n'ai pas d'informations sur la présence de membres nigériens de Boko Haram, mais nous restons vigilants.
Rendez-vous demain pour la seconde partie de cette interview exclusive avec Mahamadou Issoufou, le président du Niger. Dans le cadre de la lutte contre le virus Ebola, l'OMS a donné son feu vert pour l'utilisation de traitements non homologués sur les malades du virus Ebola. Mais ce sérum, qui est toujours à un stade expérimental, est-il prêt pour une utilisation à grande échelle ? Lola Akomachri a joint par téléphone le professeur Christian Hervé, directeur du département d'éthique médicale et de médecine légale de l'Université de Paris-Descartes.
La prise de décision elle-même apparaissait, je dirais, presque évidente, puisque vous avez une mortalité de 50 à 90% d'après les statistiques. C'est évident que le rapport bénéfice-risque plaidait totalement pour qu'un tel sérum soit, expérimenté. Quand je dis le mot expérimenté, là on est dans une indication compassionnelle, puisqu'on n'a pas eu en définitive d'éléments méthodologiques qui nous permettent de dire qu'à l'avenir il n'y aurait pas de conséquences. Bien sûr, c'est ce à quoi, bien entendu, chacun pensera, d'où l'importance ensuite de suivre ces personnes dans les différentes symptomatologies qu'ils peuvent avoir.
Mais qu'est-ce que vous répondez à ceux qui parlent de cobayes par rapport au fait qu'on soit très peu avancé dans le développement du sérum et qu'il y a déjà eu un décès, notamment le prêtre espagnol qui a déjà bénéficié de ce sérum-là?
C'est vrai que normalement, les différents médicaments doivent être méthodologiquement bien organisés et qu'il y ait des preuves. Là, nous sommes devant une urgence. Donc ce n'est pas une expérimentation, c'est un secours. C'est comme ça qu'il faut le prendre, ce qui n'empêche pas que des recherches soient faites, bien entendu. Donc là, on peut comprendre. Mais par contre, ce qu'il ne faudrait surtout pas, c'est traiter en urgence, cette crise et ne pas prendre en compte, en définitive, toutes ces maladies infectieuses qui, maintenant, dans le monde, risquent de s'étendre jusqu'à des épidémies, des pandémies, avec les moyens de communication que nous avons. Bien entendu, nous avons à réfléchir.
Mais professeur, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, l'Afrique est prête à faire face aux effets secondaires par rapport à l'introduction de ce sérum-là ?
C'est bien ce que vous êtes en train de me dire. N'y a-t-il pas un manque en définitive, à la fois peut-être de moyens, mais aussi de moyens humains, de personnes habilitées qui théoriquement, en termes de santé publique, devraient s'investir plus avant avec des financements qui seraient en rapport. Là, il y a une véritable politique publique, une interrogation éthique de santé publique sur les politiques publiques qui ne peuvent être actuellement qu'internationales.
Le professeur Christian Hervé, directeur du département d'éthique médicale et de la médecine légale de l'Université de Paris-Descartes. Vous êtes bien à l'écoute de Sahel Plus sur la Voix de l'Amérique et sur le 90.5 FM à Atakpamé, au Togo, sur la radio Excelsior. Direction le Mali, pour finir l'émission, quelques 300 Maliens de la Centrafrique ont pu regagner Bamako, bénéficiant d'une opération de rapatriement. La plupart sont venus les mains vides, laissant derrière des biens pour certains, des parents pour d'autres. À l'aéroport de Bamako, le soulagement était double pour les rapatriés et pour les autorités maliennes. De Bamako, la correspondance de Kassim Traoré.
Ils sont environ 300 Maliens qui sont revenus au pays. Pour beaucoup, c'est de plus en plus insupportable de vivre ensemble. À sa descente d'avion, nous avons croisé Simba Diarra, un Malien qui a vécu les 34 dernières années de sa vie à Bangui, en Centrafrique. Il revient au pays les mains vides, mais ambitionne de rejoindre ses proches en Europe du Sahel, dans la région de Kaï. Simba Diarra.
En décembre 80, je suis arrivé à Bangui. Depuis lors, je suis là-bas, je fais des va-et-vient. Il y a eu des moments paisibles à Bangui, il y a eu des moments difficiles, des moments très durs. Mais ces 6 derniers mois-là, c'était un peu difficile. Très difficile avec la guerre. On a des concessions là-bas, on a un peu de tout. Bon, on a des parents qui sont là-bas jusqu'à présent. J'ai des enfants de mon grand-père qui sont dans la concession. C'est le destin. Mais on a préféré être là ce soir. C'est ce qu'on peut dire. Je vais au village natal. Ça, c'est la possibilité dans ces deux jours même.
Awa Gari est une jeune Malienne de 20 ans. La native de Bangui foule pour la première fois le sol de son pays d'origine. Mais elle ne compte plus retourner en Centrafrique compte tenu de l'horreur qu'elle a laissé derrière elle à Bangui.
Moi, je n'ai rien laissé. Tout ce que j'ai laissé là-bas, c'est gâté. C'est gâté à cause de cette guerre-là. Ils ont détruit notre maison. Tout ce qu'on a, ils ont détruit. Nous, on est venus avec les habits seulement. On va partir chez la famille comme ça. À Bokassambourou, ma famille, on a tué ma famille. 3 personnes, on a tué 3 personnes. Après, on a gâté notre maison. Donc, moi, je me sens choquée, quoi. Ça me fait mal de retourner même à Centrafrique. C'est pas un pays.
Cette opération qui a duré 2 mois est la concrétisation de plusieurs efforts. Car la délégation malienne qui était à Centrafrique a cherché les Maliens au-delà de Bangui. Abdramane Sylla, ministre chargé des Maliens de l'extérieur.
Depuis 2 mois, nous travaillons là-dessus. Puisqu'il s'agissait d'aller chercher les gens, pas dans Bangui, mais dans d'autres villes lointaines de Bangui. Et pour cela, il fallait s'assurer du concours de la MISCA, s'assurer du concours de l'OIM, des organisations humanitaires qui étaient là, pour permettre vraiment de conjuguer tous ces efforts-là, d'organiser des convois militaires pour aller les chercher. Donc ils sont arrivés à Bangui et aujourd'hui ils sont là à Bamako. Ceci vraiment, il faut rendre grâce à Allah.
Le ministre Sylla assure par ailleurs que cette opération de rapatriement est l'une des toutes dernières du gouvernement malien en faveur des Maliens de la Centrafrique. Bamako, Kassim Traoré, La Voix de l'Amérique.
Sahel Plus, c'est fini pour aujourd'hui. À la réalisation, Michel Joseph. À la console, Michael Dubinsky. Au micro, Claire Morin-Gibourg. Nous nous quittons en musique avec Cheikh Tidiane Seck et le morceau Kobe Na Touma. Rendez-vous demain, 21h, temps universel sur la Voix de l'Amérique ou d'ici là, sur nos pages Facebook ou Twitter, VOA Sahel Plus. Bonne soirée et bonne nuit à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada.